5h, 5h30.
Bonjour chez vous.
Avec EMCI TV.
Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous passez une belle semaine en notre compagnie. Aujourd'hui, on parle de l'offense. On va voir comment guérir de l'offense. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'il y a des conséquences à garder l'offense en soi? Eh bien, c'est tout un bon programme très, très, très important. J'insiste parce que l'offense fait énormément de dégâts. Et je suis à nouveau, comme hier, avec Aurélie et notre invité, le pasteur Mohamed Sanogo. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, Evelyne. Bonjour,
Mohamed. On n'a pas changé de place. Hein.
Oh, non, non, bah, ça marchait bien hier. On ne change pas une équipe qui gagne, je le dis toujours. Hier, on a parlé des oppressions nocturnes. Oui. Et aujourd'hui, on parle de l'offense. On va dans des thèmes très différents, mais tout aussi importants.
Très, très important.
La nuance, peut-être, c'est que les oppressions nocturnes, c'est quelque chose qui est très visible, qu'on vit, qu'on ressent, alors que l'offense, c'est plus discret, c'est plus sournois. Mm-hmm. Et parfois, on ne sait même pas qu'on a besoin de guérir de l'offense. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et pasteur Mohamed, vous allez faire une rubrique réponse d'experts. Vous allez nous dire quel impact l'offense a-t-elle sur celui qui la porte.
En effet, l'offense, non seulement vous affecte, mais elle affecte aussi profondément votre relation avec Dieu. Alors on va voir, on va en parler. Et puis, bien sûr, toucher des points de comment vous en sortir.
C'est tellement, tellement important. Je vous invite vraiment, en ce début d'émission, à avoir le cœur ouvert. Vous ne savez pas, peut-être que le Seigneur va mettre le doigt sur quelque chose. Vous pensez avoir réglé ce dossier, mais en fait, vous réalisez que c'était toujours là, en arrière-plan dans votre vie, et que ça vous limitait énormément. Donc, laissez le Saint-Esprit vous parler dans cette émission et que vous puissiez passer à l'acte du pardon si c'est nécessaire. Allez Aurélie, je te laisse la parole dans la pensée du jour.
L'offense est une prison invisible. C'est comme une blessure ouverte dont la seule façon de guérir, eh bien, c'est d'accepter de pardonner. La Bible nous dit dans Hébreux 12 au verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc là, l'offense, c'est quoi? C'est cette amertume qu'il y a dans le cœur, cette amertume qui est susceptible de se multiplier, de produire des rejetants qui infectent et qui amène de troubles, il faut absolument s'en débarrasser. Maintenant, comment est-ce que j'identifie que j'ai un problème d'offense? Parce que oui, il faut pouvoir identifier l'offense pour la traiter. Quelquefois, c'est évident, mais pour d'autres, c'est pas toujours évident. Parfois, tu vas voir quelqu'un qui va dire « Non, moi, je suis bien, personne ne m'a offensé. » Mais quand tu entends cette personne parler d'une situation ou de quelqu'un, tu te dis « Oula, cette personne a véritablement besoin de pardonner. » Donc, comment est-ce que on peut identifier quels sont les signes qui montrent que l'offense est là? Une première chose, ça peut être un ressentiment persistant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu repenses souvent à ce que la personne t'a fait. Régulièrement, tu penses à ça avec amertume et c'est arrêté dans ton cœur, en fait. Donc, tu as pris une décision dans ton cœur que, ok, par rapport à cette personne-là, peut-être tu n'as rien dit, tu n'as pas parlé, mais il y a un ressentiment qui est là. Et dans la Bible, on le voit, dans 2 Samuel, c'est l'histoire de Amon qui a violé Tamar. Si vous connaissez cette histoire-là, la Bible, en parlant de Absalom, dit que Absalom, il n'a rien dit, ni en bien, ni en mal. Pourtant, dans le cœur d'Absalom, il y avait un ressentiment qui a fait qu'il a tué Amnon. Donc, c'est important de se dire que ces choses qui sont dans le cœur, peut-être vous ne l'avez pas exprimé à haute voix, mais si cette chose-là est là, eh bien, ça veut dire que l'offense est là et il faut s'arrêter dessus, il faut guérir. Une autre chose aussi, quels signes nous montrent qu'on peut être offensé, c'est l'évitement. Tu évites la personne ou même tout ce qui te rappelle la situation, tu évites. Caïn, il a évité d'avoir une discussion avec son frère, avec Dieu, il a évité. Pourtant, lorsqu'il a vu que son offrande n'était pas agréable, eh ben, il aurait pu s'asseoir, il aurait pu parler de ça, il aurait pu s'excuser, je sais pas. Mais il a évité la situation. Et derrière, qu'est-ce que l'offense a produit? Eh ben, ça a produit un meurtre. Et même parfois dans nos relations, comme ça, on va voir qu'il y a peut-être des gens qu'on évite, des situations qu'on évite. On veut pas en parler. Pose-toi la question de savoir pourquoi. Et une des choses qui peut aussi t'aider, c'est quoi tes paroles? Est-ce que c'est des paroles négatives? Lorsqu'on te parle d'une personne, est-ce que c'est des paroles négatives qui sortent de ta bouche? Ou alors, tu peux apprécier cette personne-là facilement? Si c'est des paroles négatives, des critiques, qui se cachent même parfois derrière une fausse sagesse, fais attention à ce niveau-là. Une autre chose aussi, je vais finir avec ça, c'est des réactions disproportionnées. C'est un peu comme celle que Absalom a eue, mais ça peut se traduire sous différentes formes, en fait. Tu as vécu quelque chose, mais tu réagis violemment et tu réagis dans l'optique de nuire à l'autre. Ésaü a vécu quelque chose avec son frère Jacob. C'était pas forcément bien ce que Jacob a fait, mais il a une réaction disproportionnée. Il veut le tuer. C'est ça, en fait. Il se met sur cette base-là parce que il est profondément offensé. Il y a une rancune qui est profonde. Donc, parfois, dans notre vie courante, on va pas forcément dire je vais te tuer, mais peut-être tu vas vouloir tendre un piège à cette personne. Peut-être tu vas vouloir qu'il rate sa promotion. Tu vas dire des choses express pour que cette personne-là ne réussisse pas. Tu vas devenir une occasion de chute pour cette personne. Donc, si tu vois des choses comme ça dans ta vie, fais attention. Il y en aurait d'autres, mais on va s'arrêter là.
Merci Aurélie.
Merci Aurélie.
Déjà là, je pense qu'il y a des gens qui commencent à dire « Ah bah tiens, c'est vrai que ça, on dirait qu'elle parle de moi, on dirait qu'elle me décrit. »
C'est toi.
Et c'est ça, c'est ce qui arrive. J'aimerais revenir sur le point de la colère. T'en as touché un petit mot. Mais je trouve que ça, c'est un signe très, très important. Généralement, quand il y a un problème de non-pardon, on a une colère en nous qui parfois même crée des douleurs physiques. On a la nuque qui coince, le dos qui coince.
Oui, non-verbal
exactement.
Est très fort.
Le corps réagit même, en fait. Et cette colère qu'on peut ressentir, et il y a des gens, on va parler avec eux, ils vont dire, j'ai l'impression que je suis en colère tout le temps. J'ai l'impression d'avoir toujours comme ce poids sur moi. Puis c'est difficile parfois à identifier parce que c'est quelque chose qui s'est produit parfois il y a des années. Donc on le vit plus. Mais l'impact est toujours là dans notre vie. L'effet est toujours là. Et cette colère, c'est pas normal en fait d'être en colère tout le temps comme ça. Et généralement, c'est un bon moyen aussi d'identifier qu'on a un problème de non-pardon.
En effet. En effet. L'offense, c'est d'abord la blessure. C'est-à-dire dans l'offense, on a sur plusieurs degrés. On a d'abord la blessure qui se produit, qu'on peut identifier au moment où on la ressent. L'offense est une blessure de l'âme.
Oui.
Voilà. Il m'a parlé méchamment. Il ne m'a pas respecté. Ce qu'il a fait m'a blessé. On va dire généralement j'étais blessé. Et l'offense, une fois dans le cœur, en fait le passage que tu as cité, Hébreux chapitre 12, verset 15, il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». À ce qu'aucune racine d'amertume, l'offense c'est la racine de l'amertume, c'est-à-dire que l'offense, une fois conservée, si on a manqué le pardon, elle va se transformer en amertume. Et l'amertume va poser toutes sortes de fruits, la colère, le désir de meurtre, l'isolement, l'évitement. Et les choses que tu as dit tout à l'heure sont vraiment très importantes. Alors, dans ce que tu vois que tu évites une personne, tu ne veux plus lui parler, tu ne veux plus lui parler, c'est que tu as été offensé. On peut te demander, tu vas dire, oh non, moi je n'ai même pas eu mal, il m'a même. Pourquoi tu ne veux plus lui parler? Pourquoi tu ne veux plus discuter avec lui? Tu as été offensé, il faut reconnaître. Pourquoi lorsqu'on te parle de lui, les premières choses qui te viennent, c'est des choses qui sont négatives. Voilà. Parce que souvent, les chrétiens, il leur est difficile d'admettre qu'ils n'ont pas pardonné.
Oui.
Voilà.
Parce qu'on sait qu'un chrétien doit pardonner.
On sait qu'un chrétien doit pardonner. Le bon chrétien pardonne. Donc, comment admettre que je n'ai pas pardonné? Mais il faut que tu admettes que tu n'as pas pardonné. Il faut que tu reconnaisses que tu n'as pas pardonné en revenant sur tous les points dont Aurélie a parlé, tantôt la colère, l'évitement, le désir. La propension
de vengeance,
en fait, de critiquer, de dire des choses négatives sur la personne, etc. Ce sont des symptômes, il ne faut pas du tout les sous-estimer.
Quand on parlait des chrétiens qui ont du mal à pardonner, c'est que quand tu vois le symptôme, pose-toi la question et si c'est nécessaire, pardonne.
Oui.
Tu vois, c'est comme, il faut pas que ça vienne accabler en fait, parce qu'on n'est pas là pour rester avec les offenses à l'intérieur de nous.
Non, parce qu'on est déjà victime d'une certaine façon si on a besoin de pardonner. Donc le but, c'est pas encore
de venir mettre une couche.
Oui, une condamnation.
Et il faut décider de pardonner. Décider de pardonner aussi, c'est pas une émotion. Mm-hmm. Tu vois, je pense que c'est important que les gens comprennent ça. C'est que c'est pas une émotion, c'est une décision. C'est choisir de se rappeler que Dieu m'a pardonné, moi, de tous mes péchés. Mm-hmm. Tu vois, il y a une grâce que Dieu a manifestée pour moi. Et quand tu vois l'histoire du serviteur là à qui on a remis la dette, et puis lui, il n'a pas accepté de remettre la dette, on dit il en sera ainsi pour toutes les personnes qui ne pardonnent pas. Il a fini en prison là, tu vois. Et c'est vraiment se mettre en prison.
Oui.
Parfois, on ne le réalise pas que c'est pas à nous, c'est pas à l'autre qu'on fait
du mal.
C'est vraiment à nous qu'on est en train de faire du mal. Donc si vous vous êtes reconnu dans une des paroles qu'on a dit aujourd'hui, vous ressentez ces choses. Et parfois même, c'est des situations qui se sont passées depuis longtemps.
Oui.
C'est des choses que vraiment l'eau a coulé sous les ponts.
Et la personne a parfois même oublié ce qui s'était passé, l'autre personne qui vous a offensé.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Mais toi, si tu es dans une posture où tu penses à cette personne-là, ça peut être un de tes parents, ça peut être un ancien ami, je ne sais pas, mais que dans ton cœur, il y a du ressentiment, il faut que tu prennes la décision de pardonner et que tu pardonnes vraiment, que tu poses des actes aussi de guérison après le pardon. Parce que parfois, justement, là où on dit « j'ai pardonné »,
oui.
J'ai pardonné, c'est qu'on n'a pas posé d'actes après de guérison, d'actes qui viennent sceller ce pardon-là. Et c'est important de le faire parce que c'est ça qui va sceller et c'est ça qui va te montrer que tu es vraiment là.
Quand on a réellement pardonné, on est capable de bénir l'autre, on est capable de lui souhaiter du bien, mais sincèrement, pas juste pour le faire, mais on a la capacité à vraiment souhaiter du bien à l'autre. Alors que tant qu'il n'y a pas ce pardon-là, mais le problème, c'est qu'on va souhaiter du mal à l'autre. Mm-hmm. On va désirer qu'il souffre aussi. On va désirer qu'il vive
si
ce qu'on
a vécu. Si un malheur lui arrive.
Oui, on se réjouit. Exactement. Notre verset du jour dit que c'est dans le Proverbe 19 au verset 11, nous dit « L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus l'offense. » Et j'aime beaucoup cette traduction, « passer par-dessus l'offense ». Parce que des fois, il faut prendre de la hauteur quand on est offensé. Tu es obligé de prendre de la hauteur, tu montes un peu et tu observes la scène. Et parfois, tu vas réaliser que l'intention de la personne n'était pas du tout de te blesser. Mm-hmm. C'est toi qui as eu l'impression, tu t'es senti attaqué.
Tu vas même
et donc
prier pour la personne.
Exactement.
Tu vas réaliser qu'en fait,
elle a pas réalisé. Mm-hmm. Elle a dit cette parole. Moi, je me suis senti blessée, mais finalement, c'était pas son intention derrière. Mm-hmm. Et quand tu prends de la hauteur, tu réalises que au fond, il y a des choses plus graves, il y a des situations plus graves. Et quand tu prends de la hauteur, bah surtout, tu t'approches du Seigneur et donc tu t'approches du cœur de Dieu. Et là, tu peux te dire effectivement, comme tu l'as dit Aurélie, si Dieu m'a pardonné, moi aussi, je peux pardonner.
Ouais, et si c'est très dur, comptez aussi sur la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, parce qu'il y a des émotions qui viennent avec
mais
l'offense.
Bien sûr.
Si c'est dur, on peut compter sur la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider aussi à ce niveau-là, mais ne restons pas bloqués. Et si aussi il y a besoin de fixer des limites saines dans certaines relations,
il
ne faut pas avoir peur de les fixer sous prétexte
de pardonner et d'être un bon chrétien. Tout à fait.
Effectivement.
Pasteur Mohamed,
oui.
On passe à notre brique. Je vous propose qu'on voit l'impact justement que l'offense a sur lui qui la porte. Aurélie a mentionné rapidement qu'on est comme en prison. On va voir avec vous ce que fait l'offense à celui qui la porte dans la rubrique Réponse d'experts.
Alors, quel impact l'offense aura sur toi, sur les personnes? Il y en a plusieurs. Le premier impact va jouer sur ta communion avec le Seigneur. Ta communion avec le Seigneur va jouer sur les choses que tu reçois d'en haut, les choses que tu reçois du ciel, et ça va jouer aussi sur toi-même, ta santé, ta personne, et ça va t'auto-détruire.
Mmh.
Alors, concernant notre relation avec Dieu, le Seigneur dit ceci, en Matthieu chapitre 6, verset 12, dans la prière du Notre Père, on la connaît. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner l'offense des autres qui étaient offensés, lui aussi. Mm-hmm. Lorsqu'il fait des erreurs, Dieu ne lui pardonne plus. Il y a des personnes qui se disent, ben voilà, il m'a vexé une fois, il m'a blessé une fois, j'ai laissé tomber deux fois, troisième fois, là, trop, c'est trop, je n'en peux plus. Mm-hmm. Dieu dit, tu as totalement raison. Trois fois, c'est exagéré. Alors sache que dès maintenant, toi aussi, comme Dieu te pardonne de la même manière que tu pardonnes aux autres, tu n'auras pas le droit de faire trois péchés. Ok ? À partir du quatrième, tu vas dire, une fois j'ai laissé tomber, deux fois j'ai laissé tomber, trois fois, trop, c'est trop. N'est-ce pas que c'est ton théorème ? Qu'après trois offenses, il n'y a plus de pardon. Dieu aussi va considérer qu'après trois offenses, trois péchés de ton côté, il n'y a plus de pardon. Il y a énormément de chrétiens qui vivent et qui ont comme un ciel fermé à cause de l'offense. Leur communion avec Dieu est brisée, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à offenser. Aurélie a cité ce très beau passage où le Seigneur nous parle de celui à qui on a remis la dette et qui n'a pas su remettre la dette de celui qui lui devait à lui et il s'est retrouvé en prison. Et le Seigneur dit justement cela. Il faut absolument que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Je sais que plusieurs m'ont dit, parce que ce n'est pas du tout évident pour moi, parce qu'on a des personnes qui sont susceptibles, qui ont une âme beaucoup plus fragile. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 5, que l'amour du Seigneur a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mm-hmm. Une âme qui m'a beaucoup aidé, c'est de demander à Dieu de m'aider à le faire. Mm-hmm. De m'aider à le faire. Voilà. Mais tout commence d'abord par la reconnaissance. Mm-hmm. Il faut reconnaître, il ne faut pas dénier la chose. Il ne faut pas dire que ça ne m'a pas fait mal. Il ne faut pas dire cela parce qu'on a tellement peur que Dieu ne nous pardonne plus qu'on dit, oh, de toute façon, moi, je n'ai pas eu mal. Je n'ai pas eu mal. Non, tu as eu mal. Il faut le reconnaître. Et quand ça devient difficile de pardonner, il faut demander l'aide de Dieu.
Amen.
Voilà. Dieu ne compte pas sur ta propre force pour arriver. Quand il dit, alors les apôtres lui demandent, mais jusqu'à combien de fois t'as-t-on pardonné? 7 fois. Ils ont dit 7 fois, 77 fois. Jésus est en train simplement de leur expliquer que l'être humain ne peut pas tout pardonner. 1 Corinthiens chapitre 13 dit ceci, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Mais de quel amour y a-t-il question? De l'amour de Dieu, pas de l'amour des hommes. C'est Christ qui est en nous, qui nous donne la force de pouvoir tout pardonner. Par toi-même, tu auras forcément une limite de pardon. Par toi-même, tu vas à un moment donné, tu vas craquer. Alors n'essaie pas de te battre. L'apôtre Paul dit ceci, si je vis, Galates chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Si j'aime, ce n'est pas moi qui aime, c'est Christ qui aime en moi. Si je pardonne, ce n'est pas moi qui pardonne, c'est Christ qui pardonne par moi. Donc, il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, je n'en peux plus, viens à mon secours et Dieu va te donner la force. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus de colère, il n'y a plus d'amertume et tu es capable de dire à l'autre, je t'ai pardonné. On peut aller plus loin. Quelquefois même l'offense. Certains sont même offensés par Dieu.
C'est vrai, oui.
Ah oui, par exemple, on perd un être qui est proche. Pourquoi Dieu ne m'a pas défendu? Pourquoi Dieu ne m'a pas protégé? Pourquoi? Et on a envie, on ne sait pas trop comment faire, parce que là, on n'en veut à personne. C'est à Dieu lui-même qu'on en veut de n'avoir pas laissé les choses de face. L'apôtre Jean dit ceci, de même que Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la pensée de souffrir. L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 6, en 2 Corinthiens chapitre 12, il dit ceci. Et dans Actes des Apôtres, il y a tellement de passages. Il dit que, en Actes des Apôtres, il dit par exemple que les apôtres fortifiaient l'esprit des disciples en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'on devait hériter le royaume de Dieu. Il faut que vous compreniez que la vie chrétienne, la vie dans le monde, est faite d'offenses. Vous serez blessés, vous serez offensés et vous allez aussi offenser. Une fois qu'on a admis cela, Paul dit, le passage que j'ai cité tantôt, il dit, au milieu de la détresse, j'ai appris à garder l'amour. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement accepté ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul dit, j'étais en péril parmi les faux frères. J'ai été en péril. Le monde est comme ça. Tu es vexé, mais toi aussi tu vexes d'autres personnes. Tu es blessé, mais toi aussi tu blesses d'autres personnes. Ça fait partie du cycle. Mais c'est une école de formation. Ça fortifie ton esprit d'arriver à te relever, à remonter, ça te rend encore plus fort. Donc, ne coupe pas ta relation avec Dieu pour une mauvaise gestion. Donc, quelles sont les conséquences de l'offense? Couper notre relation avec Dieu et nous priver même de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15 nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui nous prive des faveurs de Dieu? Les racines de l'amertume. C'est quoi la racine de l'amertume? L'offense. Donc, l'offense va faire que la grâce, c'est quoi? C'est je fournis des efforts et Dieu me donne beaucoup plus que ce que j'ai fait. Quelqu'un qui vit sans offense, il va sentir tellement de grâce dans sa vie. ressens les grâces que Dieu t'envoie et vis avec ces grâces divines-là. Ne laisse pas l'offense te priver de la grâce de Dieu.
Amen.
Une autre chose que l'offrande va produire dans ta vie, Matthieu chapitre 24, verset 10. Dans la version française, on ne sort pas la subtilité de l'offense. On ne sort pas la subtilité de l'offense. Il dit ceci dans la version Louis II, à cause de l'iniquité, plusieurs succomberont, se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs succomberont, se trahiront et se haïront les uns les autres. Mm-hmm. Dans la King James, en anglais, il est dit, « Many will be offended. » Ça veut dire plusieurs seront offensés. Mm-hmm. « And shall betray one another. » Donc, plusieurs seront offensés et deviendront traîtres les uns envers les autres. L'offense aura une conséquence de déloyauté, mm-hmm. c'est-à-dire de betray, de trahir son alliance. Un monsieur, si vous êtes offensé par votre épouse, si cette offense-là finit par créer l'amertume, vous allez vouloir remettre en cause votre union de mariage. Mm-hmm. Vous allez trahir votre union. Many will be offended. Beaucoup de gens quittent leur département, quittent leur église à cause de l'offense qui a progressé en eux. Une fois que l'offense est dans votre cœur, si vous ne pardonnez pas, si vous ne traitez pas, vous ne serez pas fidèle à vos premiers engagements, aux engagements que vous avez pris dans votre église, dans la mission, voilà. Et l'offense, selon Matthieu donc 24, verset 10, dans la version anglaise, est une puissante arme de Satan dans ces temps de la fin. Faire en sorte que vous soyez vexés, faire en sorte que vous soyez frustrés, que vous soyez en colère contre quelqu'un ou même contre Dieu. Il faut apprendre à traiter avec ce mal pour mm-hmm. que vous soyez des personnes fidèles dans votre relation, que votre mariage soit béni. Vous pouvez être même quelquefois même offensé par vos propres enfants. Si vous ne savez pas faire, ça va couper votre relation et vous allez trahir vos enfants. Les enfants vous trahiront les parents, ou les parents trahiront les enfants. Amen. Et la dernière chose, une conséquence de l'offense maintenant, qui va maintenant te concerner donc directement, donc tu as compris premièrement, elle affecte ta relation avec Dieu, elle te coupe de la grâce, elle te coupe du pardon. Deuxième chose, elle affecte ta relation avec les autres. Donc Matthieu 24, 10, version anglaise, tu ne seras plus loyal à tes engagements vis-à-vis d'autrui. Et ça va entraîner tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la troisième chose, c'est que ça va te rendre malade. Ça va te fragiliser. Beaucoup de maladies de notre siècle viennent des conséquences de l'offense. L'offense, c'est vraiment une saleté de l'âme. C'est pour l'âme. C'est un poison dans votre âme. C'est un poison qui va s'installer et qui va vous ruiner vous-même, qui va vous réunir vous-même. Dans chaque chapitre 5, verset 16, un passage que nous connaissons. Mais en fait, je crois que la version Louis II n'a pas utilisé le bon terme pour traduire le mot. C'est juste ce qu'ils ont dit. Le mot grec, c'est paraptoma. Il est dit, chaque chapitre 5, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, le mot péché ici, c'est le mot paraptoma, qui est celui qui est utilisé tout le temps pour parler d'offense. Mais ici, on a dit péché. OK? Donc, si vous prenez le mot grec paraptoma, quand on dit pardonner, pardonne-nous nos offenses, c'est paraptoma. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonner, c'est le mot paraptoma. Chaque fois que vous voyez le mot offense, c'est le mot paraptoma qui a été utilisé. Mais dans la version Jacques, chapitre 5, verset 16, ils l'ont traduit par péché. Okay. Ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Dieu n'est... Une offense est un péché. Ça, c'est important. Donc, la traduction n'est pas fausse. Mais ça ne permet pas aux gens de voir. Les péchés, comme nous les connaissons, ce n'est pas aux autres qu'il faut les confesser. C'est à Dieu. Le texte, il faut le lire comme cela. Confessez donc vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est-à-dire que l'offense rend malade. L'offense rend malade et crée beaucoup de maladies. Une fois, je priais, l'esprit m'a fait comprendre que le développement des cancers vient de l'offense. Les gens sont blessés par la vie. Les gens sont froissés. Et le sang est empoisonné. Le sang est empoisonné. L'âme, parce que l'offense va affecter l'âme, l'âme est empoisonnée et ça va fragiliser le sang. Ça va fragiliser donc le sang de vos enfants qui naîtront de vous. Parce que vous savez très bien que dans le sang,
il y a plus que des globules. Mm-hmm. Le sang transporte la mémoire, le sang transporte des informations. Il transporte pas seulement des informations physiques, il transporte aussi la mémoire des choses qui vous ont blessé. Okay? Et ça fragilise les bébés que vous portez. Les enfants naissent de plus en plus avec des maladies parce que le monde, selon Matthieu 24, est davantage offensé. Les gens sont blessés. L'offense est une âme de Satan. Ne le laissez pas vous vaincre. Et ça vous rend malade, ça crée toutes sortes de maladies. Les insomnies, les cauchemars dont on a parlé précédemment, les cancers, les diabètes, les problèmes d'hypertension. L'offense va vous mettre dans les stress. Mmh. Quand vous voyez des personnes qui vous ont offensé, vous êtes stressé, angoissé, la peur de les rencontrer. Vous êtes dans des communautés, quand vous partez, vous sentez très mal de rester là. Et au fur et à mesure, vous fragilisez votre âme et votre corps et votre communion avec Dieu. Ça ne vaut pas la peine de garder un poison pareil en vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être guéri? Jacques 5:16, il faut en parler. Amen. Il faut en parler. Il faut en parler. Le simple fait même de discuter. Je dis, quand j'étais enfant, mon papa m'a abandonné. Ça m'a fait mal. Juste cette parole va permettre la guérison. Ne restez pas simplement pour en parler. Parlez avec Dieu. Mais Dieu dit ici, confessez vos offenses les uns les autres. Parlez avec des personnes. Vous voyez ce qu'on appelle souvent les thérapies de groupe? C'est basé sur Jacques 5:16. De s'asseoir avec des personnes et puis de discuter des sujets. De discuter des choses qui vous ont fait mal. Vous allez voir que d'autres personnes ont vécu la situation similaire et puis comment ils ont abordé les sujets. Et ça va vous aider. Ça va vous aider. Quelle que soit la forme d'offense, les offenses se traitent en parlant avec Dieu, mais en parlant avec les autres. Mm-hmm. En parlant avec les autres. Parce que c'est très souvent d'autres personnes qui vous ont blessé. Mm. Amen. Et puis, je termine avec cela. Une arme puissante que vous donne l'amour de Jésus, c'est l'amour excuse tout. En 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour excuse tout. Donc, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à excuser, c'est que l'amour de Christ n'est pas parfait en vous. Comment l'amour de Christ est parfait en vous? Il faut simplement lui demander, Seigneur, apprends-moi à aimer. Il va vous le donner. Mm-hmm. Amen. Regardez Jésus, pendant que les gens le crucifient à la croix, l'excuse va vous protéger. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pensez que ceux qui le crucifiaient ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais l'amour est... pour guérir de l'offense, il faut savoir souvent aller trouver auprès de Dieu pourquoi la personne est devenue comme cela. Mm-hmm. Et généralement, vous avez la tendance à accuser. C'est souvent quand on regarde des films et puis on voit comment le bandit est devenu bandit. Mm-hmm. On a une tendance, on a compassion. Donc, c'est vrai. L'excuse, c'est... tu vois, si un enfant vient et puis il t'injurie, un enfant de 2 ans, tu vas te dire que c'est parce qu'il a 2 ans. Si un adulte t'injurie, tu vas te dire, il sait ce qu'il fait. Ouais. Donc, je lui en veux. Un enfant de 2 ans, on va se dire, c'est pas ce qu'il fait. Donc, c'est ce que Jésus a utilisé. C'est une arme. L'excuse est une arme pour garder votre cœur de l'offense. Allez trouver auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi cette personne est devenue si négative, etc., etc. Donc, voilà, sois guéri dans ton âme, je le déclare dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont malades à cause des offenses, que Dieu vous guérisse, que tout ce dont la communion avec Dieu a été affecté à cause des offenses, qu'aujourd'hui le pardon soit en vous et que cette intimité avec votre Dieu soit ressuscitée. Soyez bénis.
Amen, amen. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède.
En effet.
Et vraiment, je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie que de pouvoir se sentir libéré de ce fardeau, du non-pardon, de l'offense. Amen. Merci beaucoup, pasteur Mohamed. Vraiment, je prie de tout cœur que cette émission a pu atteindre sa cible vraiment dans vos cœurs. Et n'attendez pas, ne vous dites pas non, mais je sens que oui, mais je suis pas tout à fait prête. Je vais attendre un peu. Comme Aurélie l'a dit, ce n'est pas une émotion, c'est une décision, c'est un choix. Prenez la décision du pardon. N'attendez pas une seconde de plus. C'est le moment de relâcher le pardon et d'enfin pleinement vous libérer. Alors demain, on se retrouve, on va voir qu'est-ce qu'un chrétien charnel. On change encore de sujet, je vous dis, cette semaine, on touche à tout. Pasteur Mohamed, vous ferez une rubrique conseil du coach, comment contrôler sa chair. Ah là là, ça c'est important. Et je sens qu'il y en a déjà qui n'ont pas envie d'entendre cette émission. On n'aime pas ce genre de thématique, mais c'est super important. Donc on va se retrouver demain. Merci Aurélie, merci Pasteur Mohamed. Et bonjour chez vous.
journée, bon réveil. Vous êtes à l'écoute de Coucou, il est tout pile 5h30. Bienvenue. Philippe pour vous accompagner jusqu'à 6h30 avec Megan Woods tout de suite pour bien continuer et bien commencer la journée.
I'd be lying if I said that I'm okay. 'Cause right now I'm lost and lost count of the broken prayers I've prayed. And it's true that some days it'd be easier to doubt, but your word has never let me down. So I believe you when you say trust your work, and even when my eyes can't see, I won't fear the future, 'cause I know your plans are good for me. And it's true that some days it'd be easier to doubt, but your word has never let me down. So I believe you when you say
à l'instant sur Phare FM, la radio autrement. La demi est passée de quelques minutes hein, dans Cocorico. C'est juste le temps de se faire couler un café et on recommence.
5h30, 6h30, Cocorico
avec Philippe.
Et avant de se faire couler un café, je vous lance le programme des du prochain quart d'heure. Claudio Capéo, T'en aller, Soprano, Teddy Suisse mais également et Présentiel à moment avec Jésus arrive à 5h40. Voilà, vous restez là. Moi, je m'en vais pour aller couler un café et je reviens vers 6h moins le quart pour le prochain quart d'heure. Je suis avec vous jusqu'à 6h30. C'est Cocorico.
That's all that really matters in the end. find somewhere you can come home to, find someone that'll die for you, cause it's all that really matters in the end. It's love, love, love. Cause it's all that really matters in the end. Too much of you to someone else. I'm talking to you now like we're old friends. It'll never be too late to start again. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come. Someone that'll die for you. Cause it's all that really matters in the end. It's love, love, love. Cause it's all that really matters in the end. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love.
La division ne commence pas toujours par un conflit. Elle commence souvent par une pensée, une parole, un silence, une blessure qu'on garde. Mais tu as le pouvoir de protéger ce que je suis en train de bâtir. Comme Paul l'a écrit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mon ami, ma présence repose là où mon peuple est uni. Quand tu choisis la paix plutôt que la réaction, la construction continue et ma gloire s'établit. Alors, ne laisse pas l'offense te voler ta place. Garde ton cœur et continue d'aimer. Ce que je bâtis à travers toi est bien plus grand que tu ne l'imagines. Ton ami.
Seigneur Jésus, je viens à toi avec un cœur ouvert. Je te demande de m'aider à choisir la paix et l'unité dans ma vie quotidienne. Aide-moi à pardonner, à aimer et à garder mon cœur pur. Je veux être un instrument de ton amour et de ta grâce. Donne-moi la force de ne pas réagir aux offenses et de préserver l'unité que tu désires. Que ta gloire se manifeste à travers moi et que je puisse continuer à bâtir ton royaume sur terre. Merci pour ton amour et pour ce que tu fais à travers moi. Amen.
Retrouvez Présentiel, un moment avec Jésus, en podcast sur pharefm.com/replay et sur votre plateforme d'écoute favorite.
Par FM, l'émotion partagée.
Il te dit qu'il t'aime, que tu es belle. Il te caresse avec des épines de rose. Il te promet la lune, il te promet le miel. Il te dit que c'est ta faute quand il explose. Il te fait du tort, il te fait du mal. Mais l'amour à mort n'a rien de normal. Il sait qu'il a tort, il sait que t'as mal. Mais l'amour à mort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tout est calme avant la tempête. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Mais tu dois t'en aller. Où est passé l'amour, où est passé le charme? comment faire quand tu es devenu sa chose? Que dire quand l'oreiller est devenu une arme? Quand ta liberté est une porte close? Quand les mots sont forts et les mots sont durs? Quand l'amour à mort devient un coup sûr? Et tout l'or du monde n'est pas une armure? Quand l'amour a tort? Balance au vent toutes ces lettres, des regrets à chaque fois. Tu penses aux promesses qu'il t'a faites, mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Se lève et l'horizon est bien dégagé. Il restera des traces, mais tu seras enfin libéré. Mais tu dois t'en aller et quitter ces bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller.
La barre des 6 heures, on va la franchir ensemble dans moins d'un quart d'heure. Mais avant, Yungeli, Lenny, De Palma, Israël, Eklaman, Stéphane, Stanley, ces quatre artistes vont nous sublimer un très bon moment. De quoi bien se réveiller en ce mercredi matin. Et Babel Project, ce rendez-vous arrive pile au milieu de ces quatre artistes. Bienvenue dans Cocorico.
5h30, 6h30, Cocorico.
Avec Philippe.
I don't know who I am sometimes. I wish life was a straight line. Where do I belong in the scheme of things? Is there something I'm just missing? Just don't hold back.
Mississippi, deep like the love he gives me. These roots are all I need.
Expérimenter la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus.
Le livre des Nombres. Ce quatrième livre de la Bible poursuit l'histoire du peuple d'Israël après leur exode de l'esclavage en Égypte. Dieu les a conduits au mont Sinaï, où il a scellé une alliance avec eux. Et malgré la rébellion d'Israël, Dieu a gracieusement fourni un moyen pour qu'Israël demeure près de sa sainte présence dans le tabernacle. Le livre des Nombres débute donc au moment où le peuple d'Israël termine son séjour d'un an au mont Sinaï et se met en route pour le désert en direction de la terre que Dieu a promise à Abraham. La structure de ce livre est, tout comme son récit, ponctuée par les différentes étapes du périple d'Israël. La première section s'ouvre tout d'abord sur le mont Sinaï, mais ensuite les Israélites se mettent en voyage jusqu'au désert de Paran. De là, ils voyagent encore jusqu'aux plaines de Moab, situées juste en face de la terre promise. La première partie commence avec un recensement par lequel le peuple est dénombré, d'où le nom du livre. S'ensuit une liste de lois sur l'organisation du camp que les tribus d'Israël devaient respecter. Alors le tabernacle devait être situé bien au centre, puis encadré par les prêtres et les lévites.
Phare FM vous a présenté Bible Project. Retrouvez cet épisode en intégralité et en vidéo sur bibleproject.com/français.
Phare FM, ma radio.
La pluie ne m'a pas lâché. 10 heures, tu m'as laissé tomber.
été. La pluie ne m'a pas lâché. Tu seul, tu m'as laissé tomber, tomber.
Je tente qui court. Si demain m'appelait au secours, si mon cœur devient même lourd pour toi, je resterai pour toujours. L'horloge tourne autour de moi, tout est rose autour de toi. Les étoiles défilent autour de nous. Je suis côté de l'est à l'ouest, sur tes qualités je peux compter. Jamais je retournerai ma veste, ma vie je la passerai à tes côtés. Je te lirai matin et soir.
S'il devait s'arrêter, j'serai toujours à tes côtés. Les mots suffiront pas pour dire tout tout tout. Toi et moi c'est les, j'me demande si pour toi j'donnerai pas tout tout tout. Si t'es ma consonne, laisse-moi être ta voix et l'écrit.